Bonjour et bienvenue dans Serial Causer. Pour cette fin d'année, on part dans l'espace, dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est une spéciale Star Wars en série qu'on vous propose. Avec moi pour en parler, Dark Stéphane.
Bonjour.
Fred Trooper.
Hello.
Et nos deux vaillants rebelles, Léo, journaliste radio et sériephile.
Bonsoir.
Et Guillaume du collectif Spoilerren. Alors, je dis collectif, est-ce que ça te convient ?
Oui, ben, on est effectivement un groupe de quatre personnes maintenant derrière le podcast, donc ça me convient tout à fait.
C'est vrai que j'aurais pu dire podcasteur parce que tu es un collègue, tu fais un podcast
oui,
régulièrement sur la série. Alors Star Wars, c'était une trilogie, et puis une autre, et encore une autre, quelques dérivés avec les Ewoks, Clone Wars, et puis d'un coup, les séries live sont arrivées. La plus proche était Andor, qui s'est terminée il y a peu. Alors avant de commencer, quel est votre rapport à Star Wars ? Est-ce que vous êtes fan, simple spectateur total étranger, Stéphane ?
Oh ben, grand fan, j'ai grandi avec et je vieillirai avec.
D'accord, tu mourras avec.
Voilà, tout à fait.
Fred ?
Ouais, bah pareil, grand fan, j'ai grandi avec, c'est toute mon enfance, et voilà, mais malheureusement, ça a tendance à se déliter au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent. Mais...
Ah, ça touche à ta fanitude ?
Disons que je garde du recul, mais il y a quand même ouais. Des trucs que j'aime bien, quoi, donc voilà, je garde toujours un attachement à l'univers.
Ouais. Léo ?
Très très grand fan aussi, un peu comme ce qui vient d'être dit, voilà, je vis tellement et je suis tellement fan que sur certains trucs, et notamment sur les trois derniers films, et forcément c'est un peu plus difficile à vivre quand ça part en sucette, quoi. mais bon, pour le reste, oui, très grand fan, c'est vraiment l'univers dans lequel je me plais le plus. Si un jour je devais écrire un truc, je pense que clairement je m'inspirerais de Star Wars.
Vraiment. D'accord. Et Guillaume ?
Je vais pas être très original. En tant qu'enfant des années fin 80, 90, j'ai un petit peu grandi avec Star Wars. Ça a un petit peu forgé mon imaginaire, clairement. Avec la petite particularité que presque plus que l'histoire, c'est vraiment le monde qui est bâti par rapport à Star Wars qui me fascine. Toutes ces technologies, ces personnages, ces planètes, ces cultures, c'est vraiment ça qui me fait qu'à chaque fois j'y reviens. Et pour ça, je suis plutôt du coup assez fan de la prélogie qui a été vraiment les premiers Star Wars que j'ai vus au cinéma et que je retrouve un peu à droite à gauche dans les séries, et ça me fait plaisir.
Oui, personne n'a vu la première trilogie au cinéma, vous n'êtes pas aussi vieux que ça.
Non.
Malheureusement, non.
Je les ai vus en édition spéciale.
Ouais, c'est ça.
Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de séries quand même avant l'ère Disney+. Il y a quand même pas mal de séries animées principalement. On va rapidement en faire la liste. Alors, il y a Droids, des aventures de R2-D2, C3PO en 85. Bon, c'est dispo sur Disney+, mais je pense que personne... On a grandi avec.
Absolument pas.
Voilà. Non. Je sais pas si ça vaut le coup, vraiment.
Les Ewoks s'est réanimé aussi en 85-86. C'est avant les événements du Retour du Jedi. Il y a des téléfilms, parce qu'il y a eu deux téléfilms Ewoks, Les Aventures des Ewoks et sa suite, La Bataille d'Andorre. Ça, pareil, hein, on va pas non plus passer du temps dessus. Je vais même pas vous poser la question. Mais le gros morceau, c'était quand même à partir de 2003 avec Star Wars Clone Wars, une série animée qui se place entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Alors c'est une série aussi léger, comme j'ai pu le lire. Elle raconte les événements de la guerre des clones. Est-ce que c'est une série qu'il faut impérativement rattraper, Léo ?
Oui. Oui, c'est ce qui a été fait de mieux. Tout Clone Wars, à partir de 2003 jusqu'à... Jusqu'à en fait la dernière saison qui est sortie il n'y a pas si longtemps à la faveur de l'arrivée de Disney+, c'est ce qui a été fait de mieux en termes d'extension de l'univers de Star Wars. Parce que finalement, moi, mon rapport à Star Wars, pour aller dans la veine de ce que tu disais avant, c'est en fait 6 films, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est-à-dire que t'as vite fait le tour, et l'avantage de cette série Clone Wars, c'est qu'elle a su vraiment explorer l'univers avec... plus de liberté, pas les contraintes des films, plusieurs saisons, et explorer tellement de chemins, tellement de choses que les films n'ont pas eu le temps, n'ont pas voulu faire, on fait les choix de ne pas faire. Le meilleur exemple, c'est le personnage de Palpatine. On sait tous très bien, en ayant vu les 6 films, qui il va être, ce qu'il va devenir, etc. Et pourtant, Et pourtant, bah, on se prend de passion à se dire, ah, mais s'il fait ça, peut-être que du coup, il ne deviendra pas l'empereur, peut-être qu'il deviendra, enfin, il régnera pas sur la galaxie, etc. On sait qu'il y a d'autres événements qui sont passés avant, qui sont passés après. Et pourtant, on se prend de passion pour Clone Wars parce que c'est divinement bien réalisé, bien foutu, etc. Donc, oui, c'est un must-see absolu.
Guillaume.
Clone Wars, ça arrive au moment en plus où pour la franchise bah, au cinéma on a l'impression que c'est terminé hein, l'épisode 3 c'est derrière nous et moi j'attendais impatiemment la sortie des épisodes parce que c'était ma dose de Star Wars en continuité en plus de l'histoire que l'on connaissait déjà et d'ailleurs c'est toujours canon aujourd'hui c'est pour ça aussi qu'il faut le regarder, c'est que de tous les contenus qui ont été créés avant le rachat de Disney, c'est un des seuls et un des rares à être toujours ouais. valable en termes d'histoire quoi. Donc ça reste
intéressant. Même les toutes premières saisons,
même les toutes
tout
premières
Clone Wars
saisons,
est canon
ouais. Ouais, ouais. Sauf celles qui ont été réalisées, les deux premières. Alors effectivement, c'est peut-être ça dont tu parles. Les deux premières ouais. séries, enfin la série un peu initiale qui a été réalisée par Gwendy Tartakovsky, qui en animation 2D et qui elle par contre n'est plus canon ouais. et est classée légende. Mais
donc
mais
la ouais, série de 2003 n'est pas canon, mais la série de 2008 l'est, c'est ça.
Exactement, ouais. Et certes, il y a beaucoup de remplissage, il y a des épisodes effectivement qui sont très centrés sur des personnages assez secondaires, voire même parfois juste C3PO et RD2D2, et voilà. Mais ça tisse quand même une trame et fait revenir beaucoup de personnages de la prélogie et de la trilogie, et là-dessus, c'est vraiment hyper savoureux et hyper intéressant. Ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'épaisseur à des personnages qui parfois n'en avaient pas. Je pense notamment à Dark Maul qui... c'est vraiment ouais. construit, certes, dans les comics, mais aussi grandement dans The Clone Wars. Quoi.
Fred, Stéphane, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Bah, y a un nom qu'il faut qu'on rajoute, c'est Ahsoka Tano. C'est juste la grande réussite de Clone Wars, pour moi. C'est l'introduction de ce personnage, l'apprenti d'Anakin, qui porte vraiment la série, et de plus en plus, là, c'est la série, je trouve, elle commence de manière... Ouais, assez légère, un peu décousue, on regarde des épisodes, ça n'a pas toute conséquence sur la suite, ça se regarde un peu en pointillé, et plus on avance dans la série, plus ça devient passionnant, parce que bah, plus ça va, plus on avance vers la revanche des Sith aussi, et donc tout ce qui doit conclure et arriver à l'avènement de l'Empire. Mais voilà, il y a tous ces parcours-là sont super intéressants. Et pour moi, Ahsoka, c'est un personnage qui est ultra, ultra intéressant, dont on suit l'évolution du coup au fil des ans, qui met tout ce qu'il faut en doute s'il y a besoin. Elle n'est pas aveugle face à son engagement de Jedi. Donc voilà, c'est un personnage qui est assez riche. Et c'est pour ça que tout le monde a plaisir à la retrouver dans les productions qui suivent derrière. Quoi. Mm.
Mais elle aura sa propre série, c'est ça ?
Oui.
Oui.
Très bien. En série live, hein, évidemment.
Évidemment.
C'était quand même une... Enfin, franchement, créer une padawan à Anakin, ça, sur le papier, ça pouvait éventuellement arriver, mais ouais. on connaît un petit peu parfois les idées des Américains. Ça pouvait aussi, pardon pour le langage, mais être une bonne idée de merde. Ça pouvait complètement se planter. Et en fait, pas du tout, parce que Ahsoka... est devenu, enfin, c'était un personnage hyper, c'est devenu, enfin, c'était tout de suite un personnage hyper attachant, et ça a continué au fil des années, au fil de ce qui lui arrive, au fil de son rapport à Anakin, qui quand même a un sérieux problème avec l'autorité, et elle, ça déteint un petit peu sur elle, et à tel point que je pense que si Clone Wars, la deuxième série, effectivement, est toujours canon, c'est aussi en grande partie par Ahsoka, parce qu'aujourd'hui, même si elle n'est pas apparue dans des films, et que pour l'instant, elle n'est apparue que fugacement, en live avant sa série live qui arrivera bah, dans le Mandalorian, eh ben elle fait partie de l'univers et pleinement et à part entière, et on la revoit après, on la revoit plus tard là, Tales of the Jedi, il y a un épisode qui lui est consacré sur son enfance, enfin, c'est fou quand même.
Il y en a quand même trois hein.
Il y en a même trois, pardon, il y en a même trois, oui, et c'est fou quand même d'avoir enfin voilà d'avoir parce qu'aujourd'hui les statues du commandeur de Star Wars, c'est les personnages des six premiers, voilà, peut-être pas trop les neuf films, encore que ça débat, mais au moins les six premiers, et Ahsoka, elle est venue se greffer à ça, comme si elle était un des personnages des six premiers films. Enfin, elle a la même stature, c'est vraiment une super réussite.
C'est même devenu l'âme de Star Wars pour moi, mais bon, après...
Voilà. Oula.
Après, c'est la réussite de Dave Filoni aussi, hein, qui est quand même l'architecte de Clone Wars, du coup. Et c'est pour ça que Disney l'a rappelé derrière. Hein. C'est vraiment pour poursuivre le travail qu'il a fait, parce qu'il est vraiment adoubé par les fans comme la digne suite de George Lucas. Quoi.
Tout à fait.
Et ouais. la deuxième série Clone Wars, est-ce qu'elle annule la première, ou est-ce que c'est une continuité, ou...
C'est plus ou moins une continuité, même si elle réécrit un petit peu des choses, ouais. Globalement, on sent que en fait, à cette époque-là, Lucasfilm a voulu s'émanciper du style qui était très particulier de cette série 2D, mais en même temps en faire une suite, puisque même dans le design des personnages, on a quand même une filiation qui est quand même assez évidente, mais transposée en 3D, et au fil des saisons, ça va un petit peu s'affiner pour trouver sa propre direction artistique, on va dire, mais ça reste quand même assez fluide en termes de narration et ça se marche pas trop dessus, quoi.
Donc la chronologie Star Wars, c'est un peu bordélique, hein, ça vous l'aurez compris, il y a plein de séries qui se mettent entre des épisodes et d'autres. Star Wars Rebels en 2014, série animée qui se passe 14 ans après l'épisode 3. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses ?
Je la préfère à Clone Wars. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, parce qu'elle a quand même pas mal de défauts, surtout sur sa première saison. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas, moi, je me suis beaucoup retrouvé dans Ezra, qui est le personnage principal, et dans cet enfant qui aime découvrir ce que c'est être un Jedi et la résistance, et etc. Et je sais pas, ça m'a beaucoup plus touché que le reste. Et alors, quand ça connecte avec merci Dave Filoni, quand ça connecte avec Ahsoka, c'était juste merveilleux. Donc voilà.
Et c'est canon toujours ? Enfin, toutes les créations là, de toute façon, depuis quelques
années. Oui, ils ont fait attention. En plus, a priori, on voit aussi le vaisseau dans la bataille de Rogue One. Enfin bon, bref, non, oui. On les voit partout. Et de toute façon, des personnages introduits, enfin, ils sont tout est canon maintenant. Hein. Ils font extrêmement attention pour développer leur univers.
D'accord. Moi, je suis en plein dedans, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve aussi le général Thrawn, qui était dans les livres qui, eux, sont passés légende.
Oui, oui, oui.
Et du coup, c'est super d'avoir ramené ce vilain-là qui est assez charismatique.
Et alors moi, j'ai une seule petit problème, c'est l'animation, que je trouve au début assez dégueulasse. Je m'y suis fait, mais l'animation Star Wars sur Rebels et sur même Bad Batch, je la trouve pas forcément la plus sexy au monde, quoi. J'ai vu mieux partout ailleurs, quoi. Voilà. Mon seul point de regret sur cet univers animé, c'est vraiment l'animation que, il y a des fois, je trouve un peu vraiment moche.
Il y a une vraie différence de direction artistique déjà entre Clone Wars et Rebels. Donc déjà, effectivement, quand on vient de The Clone Wars, il faut un petit peu s'accrocher, mais c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, c'est que le début est toujours un petit peu laborieux sur ces séries animées, mais accrochez-vous, parce que si vous aimez Star Wars, vous ne pourrez pas ne pas aimer ce qu'on vous propose, tellement c'est généreux, ça comprend ce qu'est Star Wars, ce que peut être Star Wars, et ça... ouvre les possibles de manière exponentielle plus on avance dans les saisons, et faut y aller, quoi.
La saison 4 de Star Wars Rebels est quand même le truc qui explore le plus la force, c'est juste dingue. Enfin, moi, j'ai tellement aimé ce qu'on nous a proposé et je suis tellement impatient de retrouver ça. Enfin, après, il y a du spoiler à venir, mais voilà, je suis tellement impatient de retrouver ce qu'on a proposé dans cette série qui date d'il y a longtemps et que personne n'a forcément regardé. En plus, c'était sur Disney Channel, donc c'était vraiment pour les enfants. Et ils sont allés loin quand même dans ce qu'ils ont proposé et montré à un public enfantin. Et c'était couillu, quand même. C'était couillu.
Mais c'est ça qui est bien, ouais. C'est que ça, à chaque fois, même sur Clone Wars, il y a eu des épisodes où je me dis, mais ces épisodes-là, c'est pour les enfants, mais pas vraiment quand même. Enfin, il y avait un épisode avec des araignées qui transformaient tout le monde en zombies. Voilà, je me disais, mais voilà, c'est pas le public auquel on pensait, quoi.
Clairement, ça parle. Enfin, la force de ces séries-là, c'est que ça parle à tout le monde. Et Rebels a réussi quand même un truc qui était difficile à faire, c'est-à-dire passer après Clone Wars, parce que Clone Wars a une popularité démentielle. Après ce qu'on avait vu là, partir dans Rebels avec toute une panoplie de nouveaux personnages, parce que la force aussi de Clone Wars, c'était que bah, les personnages, on les connaissait tous, hein, Anakin, Obi-Wan, ouais. On en découvrait d'autres, Ahsoka, on explorait certains qui sont juste des plots dans les films comme Plo Koon et Cady Mundi. Là, on est avec des personnages qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire Hera, Kanan, Ezra Bridger, Chopper, que des personnages qu'on découvre, et c'est vrai que les premiers épisodes, faut s'y mettre, faut laisser passer 5-6 premiers, et puis en fait s'attacher, je suis d'accord avec ce que dit Stéphane, à Ezra Bridger, au côté un petit peu tête brûlée qu'il a au début, et ce caractère-là qui confronte à la nécessité de faire front face à l'Empire, de découvrir la force, de développer, etc., et aussi des rencontres qu'il fait et qui sont hyper importantes dans cet univers. Enfin, on spoilera rien, mais le parcours initiatique vraiment d'Ezra Bridger au travers de personnages connus et nouveaux de l'univers Star Wars au moment où cette série se crée est vraiment assez incroyable, et le propos s'adultifie clairement et est de plus en plus adulte au fur et à mesure, jusqu'à même parfois des moments assez d'anthologie comme une célèbre bataille entre deux personnages désormais assez célèbres et que je ne spoilerai pas ici. Mais en tout cas, la reprise, l'héritage Clone Wars a été vraiment bien pris par Rebels, très clairement.
Et il y a aussi un truc, c'est ça explore aussi tout l'univers des Mandaloriens dans Rebels, que en fait, les gens qui regardent The Mandalorian aujourd'hui, il y a des fois, je suis triste pour eux parce qu'ils n'ont pas regardé Star Wars Rebels et ils manquent de contexte et de. Et
y a même, oui, tout à fait.
C'est fou. En fait, je dis pas qu'il faudrait tout regarder, mais en fait, le fan qui regarde tout. Il est récompensé et c'est juste ça démultiplie le plaisir qu'on a à regarder tout ce qui se passe dans l'univers Star Wars, quoi.
Bah notamment effectivement les questions mandaloriennes sur plusieurs planètes, sur les traditions de certains personnages. Moi je pense à Cady Mundi dans Clone Wars et son rapport au mariage notamment. Enfin il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes pour ça, que t'as pas le temps de traiter dans un film, et que les séries traitent vraiment bien.
Rebels, c'était la série que Dave Filoni avait pitchée à George Lucas quand Lucasfilm souhaitait faire une série d'animation. George Lucas lui avait dit « Non, on va faire plutôt un truc qui va être la guerre des clones », et que quand Filoni a pu avoir à peu près les rênes, il a fait la série qu'il voulait faire à l'origine, et on voit, et notamment à travers les Mandaloriens, que clairement, c'est là qu'il va vraiment commencer à poser durement, j'ai envie de dire, les bases de ces marottes qu'on va retrouver après dans toutes les séries qu'on va aborder par la suite. Quoi.
Star Wars Force du Destin en 2017, alors j'ai l'impression que c'est une série purement commerciale. J'ai l'impression que c'était pour vendre des jouets, ou alors est-ce que je me trompe? Donc c'est centré essentiellement sur les héroïnes de Star Wars. Qui l'a vu? Qui s'en souvient? Parce que j'ai l'impression que c'est passé totalement inaperçu.
Je m'en souviens. J'en ai pas gardé un souvenir impérissable, clairement, mais... commercial, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ça a été vite oublié. Quoi.
Donc, c'était avec Padmé, Ahsoka Tano,
Leia. Avec un style graphique un petit peu différent, plus. On retourne à de la 2D, assez dynamique. Le style était intéressant, mais effectivement, sinon, c'était des petites capsules, des petites pastilles.
Le problème de l'univers Star Wars, c'est quand ils essayent de faire de l'anthologie. Et pour moi, l'anthologie chez Star Wars, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit sur des personnages qu'on connaisse et que ce soit sur la longueur. Soit il faut que ce soit une histoire qui ait le temps de vivre, c'est-à-dire sur 3 ou 4 saisons à 20 épisodes. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Enfin, j'arrive pas à me dire, tiens, on va passer 10 minutes avec... avec Padmé, juste pour la voir vivre, monter dans son vaisseau, aller poser un vote au Sénat et puis repartir chez elle. Quoi. C'est, rien à faire. Quoi. Si c'était sur la longueur, j'aurais pas dit non. Mais moi, l'anthologie chez Star Wars, je m'en tiens le plus éloigné possible.
Star Wars Resistance en 2018, série animée aussi, qui se passe pendant la troisième trilogie. Pareil, c'est tout. Enfin, c'est récent, mais c'est terminé. Est-ce que quelqu'un veut en parler?
Ben non, mais c'est pas bon surtout. Ça bon. Enfin, c'est pour ça que personne n'a regardé, que personne ne veut en parler. Si on peut l'oublier, on va essayer de l'oublier, clairement.
D'accord.
C'est un peu la douche froide après Rebels, je me souviens. Le style graphique était très différent. On sentait qu'ils avaient baissé un petit peu l'âge, on va dire, auquel s'adressait la série. Et les personnages n'avaient pas l'air particulièrement intéressant dans cette espèce d'univers un peu de course de vaisseau, un peu en marge. Bon, effectivement, moi, j'ai pas sauté le pas.
Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont fait une saison de Clone Wars à la fin de Résistance? C'est peut-être pour revenir un peu à quelque chose de plus sain ou pas?
Comme l'a dit Léo, c'était surtout pour le lancement de Disney+, quoi. Et ouais, il fallait attirer la foule. Hein. Donc, ça avait du sens de ramener Clone Wars.
Et puis, est-ce qu'ils n'essayaient pas, à ce moment-là, de donner un peu de consistance à l'univers de la troisième trilogie qu'ils ont créé, qui est complètement bancal et qui n'avait pas de direction ? Ça, c'est là-dessus aussi que ça doit pêcher, j'imagine.
Il y a de ça aussi, parce qu'effectivement, c'est... Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est la seule série Résistance qui se passe durant la troisième trilogie, en fait, durant la post-trilogie. Mais clairement, le public, c'était des enfants. Ça n'a pas été très bien vendu, d'ailleurs, comme série, au point que c'est passé complètement inaperçu et que les personnages sont pas plus intéressants que ça. Enfin, même sont même pas intéressants.
Guillaume l'a dit, hein, ça a eu le... Enfin, la malchance de passer après Rebels. Donc, ça a été violent. Hein. Je me souviens de mes premiers retours. Mais c'était violent. Ouais.
Alors, on passe au gros morceau, les séries live. Même si on fera une petite aparté sur Bad Batch qui est arrivé en cours de route. Mandalorian, donc, est arrivé en 2019, créé par Jon Favreau. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette première série live, Léo ?
Bah, c'était quand même un serpent de mer, hein, l'idée de faire un Star Wars en live, parce que ça coûte du fric, parce que s'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas une vision, ça allait forcément se casser la gueule. Après, moi, je ne suis pas convaincu que Jon Favreau soit quelqu'un qui a une grande vision. Je pense que c'est surtout un très bon exécutant pour Disney. Là aussi, il y avait le fait de... Enfin, la figure de chasseur de primes mandalorien... fascine un peu via Boba Fett, Jango Fett, etc. Mais de là à faire une série vraiment avec lui comme personnage principal, c'était quand même pas gagné. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils lui ont adjoint celui que maintenant on appelle Grogu, mais que dans l'imaginaire sera Bébé Yoda, parce que c'est le côté cahier des charges de Disney, c'est-à-dire on vend des jouets et on fait le point mignonnerie, et puis pour contrebalancer le sérieux du Mandalorian. Au final, ce que ça donne, c'est que je trouve que, encore une fois, ça pouvait très clairement se casser la gueule. Au final, je trouve pas que ça soit brillant, je trouve pas que ce soit extraordinaire, mais ne serait-ce que pour avoir amené Star Wars en live, en série télé, je trouve que déjà le coup est réussi. Ensuite, ils ont, on parlera de son spin-off tout à l'heure, mais ils ont ramené Boba Fett, pareil, idée très mauvaise sur le papier. Au moins, ils ont pu le développer. Et puis, Boba Fett, il y avait un côté histoire inachevée à faire. Ça approche quelque chose. Il y a aussi toute l'inscription qui est en train de se faire petit à petit dans l'univers vraiment des films, puisqu'on voit passer des personnages, et des autres séries d'ailleurs, et des autres séries animées, puisqu'on voit passer des personnages qu'on a vus dans les séries animées et qu'on voit dans les films. Et là, je ne spoilerai pas non plus, parce que quand même, la surprise de la fin de la saison 2 était quand même... c'est folle. Le pari est réussi. Après, au-delà de simplement d'avoir mis Star Wars en live et de l'avoir et d'avoir réussi une série télé, je trouve que Mandalorian faudrait vraiment à un moment passer un cap supplémentaire. La première saison, c'était vraiment une longue introduction de 10 épisodes pour moi, et la deuxième commence à placer ses pions, à poser des choses, etc. Mais pour l'instant, je trouve que ça reste encore un peu en surface. Ça mériterait d'aller encore un petit peu plus loin, et j'ai très hâte de voir ce que cette troisième saison va proposer, parce que si ça reste encore à ce niveau-là, voir les épisodes va devenir pénible, et c'est quand même pas ce qu'on attend d'une série Star Wars en live.
Je vais peut-être tempérer Léo, parce que je te trouve assez quand même dur avec le pauvre The Mandalorian, quoi, mais...
Non, mais j'aime bien, j'ai pas dit que je déteste.
Oui, non...
Je peux aller encore un peu plus loin.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les... Enfin, Jon Favreau, il est quand même arrivé en disant, bon, ben moi, je veux faire une série sur un Mandalorian, et un épisode, une histoire. Là pour le coup je l'ai applaudi mentalement, hein, parce que je ne applaudirai jamais Jon Favreau, mais il avait quand même des couilles de dire bon ben voilà, je vais vous faire une intrigue sur épisode, et puis avec un fil rouge, mais c'est-à-dire à l'ancienne, quoi. Tout ce que j'aime dans les séries, quoi. C'était pas un épisode, un bloc d'épisode de 8 ou 10, c'est une histoire, c'était un film découpé, etc. Il nous a fait une vraie série. avec un début, une fin à chaque épisode et un fil rouge qui te propulse tout au long de la saison, quoi. Et c'est en ça que c'était réussi. Pour le coup, on en est arrivé, c'était un serpent de mer, comme je ne sais plus qui le disait, une série Star Wars, George Lucas, il avait écrit 20 ou 40 épisodes déjà de son truc qui n'a jamais vu le jour, et on rêvait tous d'avoir une vraie série sur l'univers Star Wars. Et pour le coup, c'est ce qu'on a eu. Et c'est pas forcément une réussite à tous les niveaux, parce que la première saison est quand même pas... elle est quand même pas folle. En saison 2, ça explore plus le folklore, le lore de Mandalorian, le sabre noir, enfin bon bref, et Grogu et tout le bordel, Ahsoka, t'as fait beaucoup de machins, et c'était merveilleux. Enfin, moi j'ai pris mon pied, quoi. Au moment où ils se sont mis d'accord avec Dave Filoni, c'était le pied.
Ouais, c'est ça. Mais c'est à partir du moment où Dave Filoni débarque et sort tous les atouts de sa manche, là ça devient intéressant, parce que moi, perso, moi la première saison, je me suis fait chier quand même. Hein.
Ben ouais, voilà.
C'était, j'arrive sur une planète, il me faut une pièce pour mon vaisseau pour redécoller, et c'était chat.
Mais c'était à l'ancienne, c'était ça qui était beau.
Ouais,
oui, mais c'est une longue intro de 10 minutes, c'est une longue intro de 10 épisodes, hein, la première saison.
Le monde a évolué, quoi. Mais après, les deux qualités que j'ai reconnues dès le départ, c'est oui, c'est beau, avec la technique de réal qu'ils ont trouvé et tout, et la musique est canon. Après, le reste, ça m'emmerdait profondément. Mmh. Et effectivement, sur la deuxième saison, là, il y avait plus de rythme, il y avait un peu plus d'enjeux, il y avait un peu plus de rapport aussi entre les personnages. Donc, je trouvais que ça devenait plus intéressant. J'espère qu'ils ne vont pas tourner en rond non plus, vu ce qu'ils ont amorcé dans le spin-off. Mais
en fait, s'ils arrivent à tourner en rond avec si peu d'épisodes et si peu de saisons, c'est que c'est vraiment des grosses brêles quand même. Vu les épisodes et tout le potentiel qu'il y a, s'ils arrivent à tourner en rond, c'est vraiment une catastrophe.
Bah on va parler de Boba Fett, hein, mais...
Non, alors, le problème, Boba Fett, c'est pas une vraie série en soi, c'est juste un petit détour pour redonner de l'élan aux Mandalorian.
Boba Fett, allons-y. Bah, Guillaume, qui allait commencer sur Boba Fett, vas-y, série dérivée du Mandalorian, est-ce que c'était bien utile?
Effectivement, série dérivée, donc on réinstitutionnalise le personnage de Boba Fett, mort a priori dans le Retour du Jedi, et un personnage très aimé des fans, et on lui redonne vie, et la série se veut comme une continuité de l'univers de The Mandalorian, puisque en gros on reprend un peu là où on s'était arrêté, mais en suivant Boba Fett. Alors, la série s'est fait, je pense, très vertement critiquer à peu près par tout le monde, et à raison. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans cette série quand même, c'est que globalement, elle est découpée un petit peu en deux parties. Elle est découpée avec l'univers, on va dire, tel qu'il est actuellement, avec Boba Fett qui essaye d'imposer bon gré mal gré son influence sur Tatooine, et des flashbacks qui le montrent en gros sortant du Sarlacc, là, l'espèce de monstre dans lequel il était tombé, et qui se refait une petite santé auprès du peuple du désert. Et en fait, quand j'ai regardé cette série, moi, je me suis dit, mais ils auraient dû faire une série, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais ils auraient dû faire une série uniquement dans l'univers de ces flashbacks. Parce que là, on a quelque chose de presque muet, on a une espèce de rédemption du personnage, ou en tout cas de nouvelle écriture du personnage qui devient autre chose que ce qu'il est conditionné à être, c'est-à-dire cette espèce de chasseur de primes éternel dans cette armure et tout ça. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant, je trouvais ça différent de The Mandalorian, justement. Il y avait une espèce d'espoir comme ça, d'un truc un peu western, mais très très épuré, quoi. Et bon, malheureusement, c'est pas du tout quelque chose qu'ils ont creusé, et le cœur de la série, qui est l'affrontement de Boba Fett entre la pègre globalement de Tatooine, mais voilà, une série qui est assez indigente, quoi, mal écrite. Les enjeux sont sinon absents, très très légers. Les personnages, au mieux, on va dire qu'ils sont sympathiques parce qu'on les a vus dans The Mandalorian, mais sinon les nouveaux introduits sont quand même assez risibles. Et comble de tout ça, c'est que les meilleurs épisodes ne sont pas à propos de Boba Fett dans la série qui porte son nom. Donc globalement, là, après effectivement deux saisons de The Mandalorian qui, sans être parfaite, était assez sympa, on commence à se dire que la multiplication n'est peut-être pas forcément un signe de qualité.
Ben c'est Boba Fett, c'est The Mandalorian 2.5. Enfin, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que t'as trois épisodes de flashback qui ont en effet cet intérêt, le côté aussi... peut-être que je vais un peu loin, mais le côté un peu, il a fait le Vietnam, alors en l'occurrence c'est pas le Vietnam mais le Sarlacc, avec tous ces côtés flashback et même le traumatisme, parce que tu vois que le mec il est même marqué physiquement par tout ça, et ça a son intérêt, mais ensuite tu vois bien que bah, ça a été un appendice fait pour faire patienter avant la saison 3. Il y a tout un épisode où on voit même pas Boba Fett, on voit que il y en a que pour le Mandalorian, enfin c'est
tellement un aveu d'échec dès le départ de la série, en fait, de se dire au bout de 3 épisodes on va ramener le Mandalorian parce qu'on ne sait pas quoi écrire, en fait, quoi.
Il y avait rien à part la rédemption de Boba Fett. Déjà faire 3 épisodes c'est balèze et c'est tout, quoi, mais ça fait pas une série, quoi, 3 épisodes, ou alors tu fais une mini-série, tu dis c'est en 4 épisodes et basta. Mais
puis,
en fait,
puis l'affrontement final est tellement risible, pourtant c'est Robert Rodriguez qui d'habitude en action ça peut être cheap mais ça peut être fun, et j'ai trouvé ça tellement cheap sur l'affrontement du dernier épisode.
Vous n'avez pas aimé les petits scooters colorés avec les gens de chevaux?
Vive les Power Rangers!
Tout ce flic pour ça, quoi. Mais en tout cas, ça permet de dire, parce qu'on a parlé d'Dave Filoni, et tout à fait, c'est que, en fait, John Favreau, c'est un simple exécutant, c'est-à-dire que ce mec n'a aucune vision, et ça se voit dans la. À part
d'avoir. De sa carrière.
Voilà, de toute sa carrière d'ailleurs, et ça se voit dans la première saison où, de Mandalorian, où il y a. Voilà, il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien. Enfin voilà, c'est un cahier des charges qui est respecté, c'est bien foutu, mais c'est un cahier des charges. Et dans la deuxième saison, une fois qu'il y a une histoire qui commence à se faire, tu vois qu'il y a un esprit créatif derrière. Et en l'occurrence, c'est, je pense, l'un des mecs qui est le plus adulé dans l'univers Star Wars après George Lucas, c'est Dave Filoni. Et tout de suite, ça se voit quand il y a une histoire, il y a une vision créative, artistique, éditoriale qui se fait derrière. Et quand tu vois Boba Fett, tu te dis, ouais, c'est pas du Dave Filoni, quoi. Donc.
Non, mais il faut aussi recaser le Mandalorian dans le contexte, c'est-à-dire que tous les films ils se cassaient un peu la gueule, surtout sur les stand-alone. La post-logie, elle a pris cher. Donc, ils ont fait, comme tu dis, un cahier des charges bien respecté pour pouvoir essayer de potentiellement s'en sortir. Et miracle, ça a fonctionné. Et une fois que ça a fonctionné, ils ont pu lâcher les brides et puis faire ce qu'ils voulaient. Oui, quoi. Mais oui, ils misaient gros quand même, parce qu'ils ont quand même racheté l'univers Star Wars pour quand même un sacré paquet de fric. Et en fait, Disney était en train de le couler, quoi. Donc il fallait vraiment faire gaffe à ce qu'ils avaient entre les doigts, quoi.
Est-ce qu'on sait s'il y aura une saison 2?
A priori, c'est pas tout à fait exclu, hein, quand même. En tout cas, Temuera Morrison, qui joue du coup Boba Fett, lui, il s'éclate dans le rôle. Il adore ce personnage et je pense qu'il aurait envie de continuer. Après, est-ce que la série a été assez bien accueilli pour ça, pas sûr. Le personnage, on le reverra certainement. Mais en fait, c'est ça qui est d'autant plus frustrant, je trouve, avec Boba Fett, c'est que, et donc avec le personnage qui est joué par Temuera Morrison, c'est que c'est cet acteur, hein, c'est celui-même qui jouait les clones dans l'épisode 2. Il y a quelque chose à faire avec ce personnage-là. Rebels, d'ailleurs, l'a fait avec les clones, a fait un traitement qui était assez génial, avec des clones vieillissants qui se reposent des questions par rapport à. Un peu comme Bad Batch et tout. Et ils en font rien, et c'est dommage, parce qu'ils vont peut-être gâcher un potentiel avec cet acteur et ce personnage avec lesquels ils auraient pu raconter des choses intéressantes, quoi.
Mais ça serait peut-être plus intéressant de le faire en animation, justement en format flashback et tout ça, parce que c'est vrai que l'acteur est plus tout jeune non plus, donc si on veut une série un peu d'action, parce que c'est quand même un chasseur de prix, mais
ils ont mis Gnawen pour ça.
Mais voilà, si on veut que ce soit centré sur lui, effectivement c'est peut-être son passé qui sera plus intéressant, ses dilemmes du fait d'être un petit peu un clone mais qui n'est pas pareil, etc. C'est là que ça peut avoir des choses intéressantes à raconter.
Ce que vous savez pas, c'est que la plus grosse surprise, ce sera que la moitié de la saison de 3 de The Mandalorian, et bien ça sera sur Boba Fett. Voilà.
Ça serait un buddy movie, hein, on sait pas. On passe à une série qui est que tout le monde attendait, parce que c'était le retour quand même d'un acteur et d'un personnage bien aimé. C'était Obi-Wan Kenobi. Fred, est-ce que la série est à la hauteur des attentes ?
En fait, moi, j'avais pas vraiment d'attente. Non, mais depuis un moment, j'attendais plus grand-chose, surtout après Boba Fett. Mais je me disais... Ouais, Obi-Wan, sur la période où il est sur Tatooine, mais il va rien se passer. Ouais. Ça va être d'un ennui total. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ben, en fait, c'est juste le plaisir de retrouver Ewan McGregor, quoi. Parce que sinon, la série n'a effectivement pas grand-chose à raconter. Il y a une reconfrontation avec Dark Vador, d'accord. Il y a un lien avec Leia, ok. Après, la réalisation, elle est anti-spectaculaire au possible. Du coup, ça nous ce qui, du coup, dans les scènes d'action et tout ça, c'est très moyen. Mais par contre, si on s'intéresse à la psyché d'Obi-Wan, là, ça devient intéressant parce qu'on le voit vieillir, on le voit douter. Donc, c'est pour ça. En fait, c'est tout le jeu d'Ewan McGregor qui vaut le coup dans la série parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, quoi.
Et revoir Hayden Christensen, non, personne ne voulait.
Si, ça va, parce que depuis, y a de l'eau coulée sous les ponts, et maintenant on s'y est fait. Mais,
c'est vrai que bizarrement, les gens étaient contents de le revoir, alors qu'il s'était fait descendre à l'époque.
Non, et puis il y a cette idée aussi de le retrouver un petit peu sous le costume, et d'avoir dans ce final-là, justement, cette part de mêler un petit peu la voix d'Aiden Christensen et la voix robotique et tout ça. Il y a quelques idées comme ça qui, quand même, dans les derniers épisodes, font un peu collent quelques petits frissons, quoi.
Mais ça reste anecdotique au possible, quoi. Enfin,
oui, complètement.
On nous a bassiné avec le retour de Dark Vador, mais en fait, tu le vois 10 secondes et puis voilà, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement dommage, quoi.
Un petit peu plus que 10 secondes. Oui. Il y a deux grosses séquences. Et qui font toute la série, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi ça. Enfin, comme tu disais, c'était voir la psyché d'Obi-Wan, voir comment il vieillit. Ce qui se passe, effectivement, dans le côté, il est sur Tatooine, il est en exil, il a décidé de plus rien faire, de plus rien dire, de se cacher, parce que les Jedi sont traqués. Donc, sur ça, et c'est hyper plaisant de revoir Ewan McGregor faire, parce qu'en fait, ils auraient casté quelqu'un d'autre... Il y aurait eu un backlash.
C'est pas possible.
Enfin, il y aurait eu un énorme backlash sur.
Non, mais c'est clairement celui qui s'en sortait déjà sur la prélogie, qui sortait vraiment par le haut du panier. Et puis là, effectivement, il porte la série à lui tout seul et ça fait vraiment plaisir de le retrouver, quoi.
Je trouve qu'il y a eu. Enfin, cette série n'est pas incroyable. Elle est anecdotique, j'irais peut-être pas jusque-là, parce que du coup. Enfin, ça rajoute quand même une pierre à l'édifice, une petite pierre, hein, une petite pierre, mais pas, mais c'est pas non plus, ça mérite pas de se faire descendre. C'est un peu. Après, là où je suis d'accord, c'est que entre les attentes probablement du public, des gens sur cette série-là et le résultat final, c'est vrai que le soufflet est un peu retombé parce que c'est une mini-série de 6 épisodes dans laquelle c'est
C'est même pas une série. Enfin, c'est même pas une.
C'est un long film de ouais.
C'est un film découpé, quoi. Donc,
ça devait être un film en plus à la base. C'est un film qui sont rallongés, quoi. Donc.
Mais c'est le meilleur spin-off qu'on pouvait avoir. On n'allait pas faire un truc sur la jeunesse de B1, ça n'a aucun intérêt. Mais sur ce passage-là, voir un petit peu l'ambiance qu'il y a dans ce climat de terreur. On n'est pas très longtemps après la revanche des Sith. On est assez loin avant un nouvel espoir, parce que Obi-Wan n'est pas encore devenu Ben Kenobi. Donc il y a ce côté entre deux qu'on voit dans l'attitude qu'il a, dans le guerrier qu'il est, c'est-à-dire qu'il a rouillé, il a vieilli, il est plus aussi bon, il veut plus passer au sabre laser. Enfin, et puis encore une fois, il y a cette ambiance dès le premier épisode avec la traque des Jedi, ou en tout cas de ceux qui sont potentiellement des Jedi. Il y a un personnage quand même dont il doit s'occuper et qui, voilà, où on voit les prémices, un caractère, etc. Il y a aussi encore ce côté, comme le faisait d'ailleurs Clone Wars, ce côté on touche du doigt ce qui a été fait dans les films et dans le canon originel, entre guillemets, les six premiers films. Et se dire, voilà, on touche du doigt ce canon-là, comment est-ce qu'on va le toucher ? Est-ce qu'on va le tordre ? Est-ce qu'on va le déchirer ? Est-ce qu'on va l'amender ? Est-ce qu'on va... Voilà. Et donc, en sachant très bien ce qui va se passer derrière, en sachant très bien qu'il arrive telle chose à tel personnage, oui, mais bon, dans les prochains films, elle est saine et sauve, elle va pas mourir, elle va passer, elle va pas ça. Mais en même temps, la série réussit à créer ce suspense-là, réussit aussi à... Avec une certaine dureté, parce qu'il y a, voilà, le Dark Vador est quand même assez impressionnant. Il y a James Earl Jones qui est de retour, et rien que pour entendre James Earl Jones faire la voix de Dark Vador.
Le fan service, voilà.
Bah ouais, mais en même temps, va trouver une voix qui va être aussi mythique que James Earl Jones, le mec qui a quoi, 93 ans maintenant, et il le fait toujours aussi bien. Il y a
la dernière phrase, il arrête maintenant. Ouais.
Il arrête, bah, c'est son dernier. C'est son dernier. Donc,
l'intelligence artificielle prendra le relais.
Voilà. Et oui, bah, et en même temps, à 93 ans, je suis déjà assez bluffé qu'il soit encore derrière un micro d'enregistrement, tu vois.
C'est clair.
Donc il y a tout ça, il y a ce côté, voilà, il y a un peu de fan service, il y a la nostalgie, il y a le fait d'apporter.
Il y a les inquisiteurs aussi, ouais.
Ces ponts, voilà, ce pont à faire, c'est un petit pont en plus, et franchement, c'est agréable, ça se regarde, enfin, ça mérite pas parfois les critiques hyper vertes qui ont été faites sur cette série, quoi.
Le problème d'Obi-Wan, c'est que ça s'adresse un peu trop, quelque part, aux gens qui n'ont plus regardé de Star Wars depuis les films, parce que finalement, tout ce que la série fait de bien ou d'original, on l'a déjà vu ailleurs, notamment dans Rebels, ou même éventuellement dans le jeu vidéo Fallen Order, quoi. Et c'est ça, je trouve, qui, moi, personnellement, m'a un peu sorti de cette série, parce que tout ce que vous avez dit, Ewan McGregor, est génial, et les acteurs, même les plus jeunes, tirent leur épingle du jeu. Et ça, je trouve que c'était un twist qui était intéressant, mais toutes les nouveautés qui auraient pu être un petit peu nous permettre de rénover un peu l'univers Star Wars, bah on l'a déjà vu ailleurs et en mieux, quoi. Les Inquisiteurs, le duel Vador, en plus de cette manière-là, bah Rebels l'avait déjà fait. Donc un petit peu dommage quand même, et un peu la question se pose quand même de à qui s'adresse cette série, je trouve.
D'ailleurs, je vais poser la question tout de suite, comme ça, ça ouvrira aussi le débat sur Andor. C'est, Guillaume l'a dit au tout début de l'émission, c'est voilà, ce qui t'intéresse, la culture globale, c'est l'univers global, les planètes, les choses comme ça. Mais est-ce que justement, c'est pas le gros problème de Star Wars et de toutes ces productions, c'est que finalement, ça tourne un peu en rond et qu'on se base essentiellement sur un noyau d'univers et qu'on n'explore pas ailleurs. On se base toujours sur des personnages qu'on connaît. Et dès qu'on va ailleurs, bah, ça donne la post-logie avec les deux derniers films qui ne sont pas bien reçus parce que ça ose des choses. Est-ce que justement, ce n'est pas le problème de Star Wars de rester sur des acquis ?
Le gros problème, le très gros mauvais choix qu'a fait Disney sur la post-logie, ça a été de ne pas oser aller dans la direction de Rian Johnson et de l'épisode 8, qui est celui qui a, pour moi, hein, le plus d'identité, parce que le 7, c'était juste nostalgie à 100%.
J'espère qu'on va pas ouvrir le débat sur la film.
Non, mais voilà.
Merci, je suis d'accord pour l'épisode 8.
voilà. Le 8 est celui qui a la plus d'identité, qui ose aller trancher le truc, aller quelque part. Et la grosse erreur qu'a fait Disney, c'est qu'effectivement, ils sont revenus à l'épisode 9, à un truc, en ramenant l'empereur, en le faisant cabotiner à mort, en basant tout sur une espèce de filiation complètement sortie de nulle part, Deus Ex Machina complet, et du coup de s'aborder complètement ce qui a été fait avant, ce qui a été fait par Rian Johnson, et de corrompre et de parasiter tout le canon des films au cinéma en essayant de faire une espèce de plot twist complètement éculé, complètement foireux, qui a donné un film complètement bancal. Et ça a été une grave erreur. Après, les séries animées, peut-être parce que elles ont plus de liberté, peut-être parce que aussi Dave Filoni a réussi à imposer un truc qui est vachement bien, ont su aussi tirer leur épingle du jeu sans avoir besoin des personnages originels. Et on pense notamment à Rebels. Rebels, c'est un équipage entier de personnages que tu ne connais pas, et c'était difficile quand même, parce que, encore une fois, Clone Wars, t'as Anakin, t'as Obi-Wan, t'as et compagnie, donc voilà, tu peux broder autour de ça. Là, tu dois faire avec une toute nouvelle équipe, et c'est réussi. Enfin, Rebels aujourd'hui
et on se retrouvait pas sur Tatooine.
Voilà.
Tatooine, non, j'en peux plus.
Oui, alors oui, en plus. Mais en tout cas, Rebels a réussi ce coup-là, et dans une moindre mesure, le Mandalorian commence à réussir un petit peu ça aussi, même si maintenant, du coup, on lui adjoint un personnage, et encore, on lui adjoint un personnage, Boba Fett, que finalement on voit très très peu dans les films. Il y avait tout à faire et les fans le réclamaient. Donc non, Star Wars sait faire, mais il faut juste arrêter les cahiers des charges à la con, il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ça, de toute façon les fans ne veulent que du fanservice, c'est un fandom très conservateur, etc. C'est pas vrai, les séries animées ont montré que c'était pas vrai, et qu'ils voudraient justement un développement, etc. Et je pense, et quelqu'un évoquait l'amiral Frone tout à l'heure, et les gens attendent que ça, c'est-à-dire que ce qui a été écrit en livre Et les livres, les premières fois où apparaît Thrawn, c'est quand même dans des livres qui sortent à la suite de la trilogie originelle, c'est-à-dire dans les années 80-90. Aujourd'hui, il est de retour au grand écran. Il y avait un truc énorme à faire sur écran, et ça va être le cas aujourd'hui. Donc non, le noyau, il peut largement être dépassé. Il faut juste savoir le faire. Et si tu confies ça à J.J. Abrams, c'est sûr que tu vas avoir zéro originalité. Hein. Tu vas pas prendre énormément de risques. Par contre, si tu confies des trucs un peu à Rian Johnson, tu prends le risque effectivement que le mec il déconstruise des trucs. Mais pour le coup, tu vas explorer quelque chose, quoi.
Alors justement, Stéphane, Andorre est arrivé cette année, qui est donc la suite, la préquelle, pardon, de Rogue One, qui était un peu, on va dire, l'un des seuls produits qui, un tant soit peu original, puisqu'il se basait pas vraiment sur... c'était un pré-événement à quelque chose qu'on connaissait dans un film, mais c'était pas avec beaucoup de personnages qu'on connaissait, c'était vraiment... Ça part. Un peu d'une base un peu, on va dire, saine et vierge. Toi, quel est ton ressenti sur Rogue One et sur Andor ensuite ?
Oula, Rogue One, c'est mon film Star Wars que je vais pas dire que je déteste le plus parce que ça serait quand même cruel, mais c'est celui que j'aime le moins. Donc voilà. Et donc ça partait très mal avec la série Andor. Moi, Cassian, je le trouvais. Déjà, j'aime pas Diego Luna, donc vous avez pas vu beaucoup. D'ailleurs, je le trouve extrêmement mauvais dans la série, et heureusement qu'il y a de très bons acteurs autour, parce que sinon, c'était une catastrophe. Donc, ça partait mal. Et au final, je suis extrêmement surpris par la qualité et l'intelligence du scénario de Tony Gilroy. Sur certaines choses, pas tout, parce que c'est vrai que la série est chiante, il y a des ratés. Il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de... en fait, il enfonce des portes ouvertes, quoi. Oui, on a compris qu'ils vont se rebeller, les gens, et c'est... T'es pas obligé de le dire 18 fois, quoi. Donc, voilà, quoi. Il y a eu deux... En fait, c'est une série à l'ancienne, là aussi, elle est construite par arc, et en fait, il y a de très beaux arcs. Celui sur la prison, écrit par Bob Willimon, est vraiment très, très réussi. La fin est beaucoup trop abrupte pour moi, mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais... C'est pas une grande réussite, mais c'est pas un gros échec non plus. Ça fluctue en fonction des épisodes que je regarde. Moi, les trois premiers, j'ai arrêté. Et puis tout le monde disait oui, mais c'est vrai, vas-y, reprends, il faut que ça devienne bien. Bon, je me dis, ouais, super. J'ai repris, et en effet, c'est devenu bien, mais en même temps, des fois, c'était vraiment très nul. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, ça va très bien avec le film Rogue One. Donc, pour moi, tout était lié.
D'accord. Bon, qui veut reprendre et qui veut contre-argumenter peut-être ?
Contre-argumenter, ça va être... moi, personnellement, Rogue One, je l'ai vu sans déplaisir, mais je ne l'ai jamais revu, étrangement. Malgré les qualités et tout, ça m'a pas marqué au fer rouge, je ne sais pas pourquoi. Et comme tout le monde, quand j'ai vu le projet Andor arriver, je me suis dit, ok, vraiment, là, on creuse pour aller nous sortir des choses qui vraiment sont inintéressantes. Donc, j'avais pas. Et pourtant, j'aime l'univers Star Wars et tout. J'ai fini par commencer à regarder parce que, comme vous l'avez dit, les critiques étaient bonnes, les retours étaient bons. Je suis vraiment pas déçu de m'y être plongé. Pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que, tu le disais tout à l'heure, Andor, à mon sens, tente quelque chose que justement ne faisait pas Mandalorian, et a raison, hein, chaque chose est différente et c'est très bien comme ça, mais Andor essaie de nous raconter une histoire au plus proche de ses personnages et de manière assez réaliste, dirons-nous, c'est-à-dire en s'enlevant de toute la surcouche mythologique, la surcouche des caméos, la surcouche de tout ce qui fait un peu de Star Wars, quelque chose de presque fantasy, quoi. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez urbain, dans des enjeux qui sont très liés aux personnages, des personnages qui traversent le récit, d'ailleurs, des personnages qui représentent des idées presque plus que des personnages et qu'on va quitter au fur et à mesure de l'avancée du personnage, enfin, le personnage principal. Au bout du bout, sur les derniers épisodes, j'ai pas honte de dire qu'Andor m'a provoqué des émotions que aucune des séries Star Wars, à part peut-être dans les derniers épisodes de Clone Wars et de Rebels, justement, une série Star Wars ne m'avait provoqué avant, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on s'attache à ces personnages, et il y a une logique dans la filiation que ces personnages entretiennent, qui voilà, nous plonge en fait dans un monde en guerre, hein, tout simplement, avec ses forces d'oppression, avec ses résistants, avec ces gens qui collaborent. Enfin, ça pourrait tout à fait être... on pourrait transposer Andorre au temps de la Seconde Guerre mondiale. Ça marcherait tout autant, parce que les enjeux sont assez similaires. Mais je trouve que ça fait du bien aussi de voir Star Wars à travers cet angle-là, quoi.
Bah, moi, je trouve, j'irais même plus loin. Je pense que c'est la série la moins Star Wars de l'univers. C'est-à-dire, fait, c'est très épuré. Il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que si tu t'attends à voir, comme le Mandalorian, si tu t'attends à voir Clone Wars, si tu t'attends à voir Rebels, tu vas être méga déçu, parce que c'est pas du tout ça. C'est, on représente un monde en guerre où, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le côté, ce sont des personnages qui représentent vraiment des idées, que ce soit celui qui est joué par Stellan Skarsgård, que ce soit Diego Luna... Que, voilà, que ce soit Lucen, voilà, c'est ça, que ce soit Andor lui-même, que ce soit les rebelles qui va aider, que ce soit Mon Mothma, la sénatrice. Enfin, c'est vraiment, effectivement, c'est un monde en guerre. C'est un monde en guerre, et on prend ces focales-là, on voit même des... Et là, ça, les Américains adorent le parallélisme, mais le parallélisme, c'est clairement avec les Allemands, avec l'Empire, enfin, c'est ça, hein, c'est-à-dire... Les réunions avec tous ces gens austères en costume, etc. Voilà, on va ça. Il y a des taupes au sein de l'Empire, il y a des taupes au sein des rebelles. Enfin, il y a des trucs. Il y a le côté de la délation qu'on voit dans les premiers épisodes aussi. Enfin, tout ça, c'est quand même osé de le représenter, parce que voilà, il y a rien de. Enfin, pour un fan de Star Wars qui est vraiment très sabre laser, vaisseau spatial, etc. Il y a rien dans lequel se raccrocher. Donc il faut accepter ça, il faut accepter ce truc-là. Et déjà, en fait, si t'as apprécié Rogue One, en tout cas, si tu vois Rogue One, etc., bah, normalement, tu dois pouvoir t'y insérer assez facilement, parce que Rogue One, c'était un peu ça aussi, même s'il y a plus de vaisseaux spatiaux, de machins et tout, c'était aussi le film qui ressemblait le moins aux autres, vraiment, les six autres, voilà, ils se ressemblent tous, là, celui-là moins... Donc c'était, voilà, le pari après d'en faire 10 épisodes, et puis même il va y avoir une deuxième saison, donc en faire 20 épisodes.
Non, il y en a 12,
c'est vrai. Bah en fait, il va y avoir 24 épisodes du coup, mais en fait, en faire ça, c'était quand même osé. Et sur ça, c'est plutôt réussi. Enfin, après, je trouve que tout le monde est dithyrambique, effectivement, je vois plein de super critiques.
Mais ils sont fous.
C'est la même chose, moi je comprends pas. Autant je trouve qu'Obi-Wan... Le jugement a été sévère pour une série qui n'était pas si mauvaise, autant là, le jugement est dithyrambique pour une série qui n'est pas si incroyable que ça. Il faut pas exagérer. Il y a des belles idées, il y a des belles choses, mais la série a des longueurs, il y a des moments... voilà, la prison, ça s'arrête sur un truc, mais effectivement complètement abrupt, c'est-à-dire que le personnage d'Andy Serkis... Où il est passé, pourquoi.
Ah, pourtant, il y a eu des articles justement de Fousse là-dessus. Oh, c'est magnifique!
Ah oui.
Sur la fin de ce personnage, c'est magnifique.
La scène est folle.
On a vu ça dans plein d'autres films. Faut arrêter, c'est pas parce qu'on ne l'a jamais eu dans Star Wars que c'est génial.
Et puis, alors,
je suis désolé, mais la série, c'est un ratage. Il y a deux saisons en une, il va en prison, on ne sait même pas pourquoi.
Bah si, parce qu'il a été attrapé, parce qu'on l'a
fait pour un. Et alors, on s'en fout de ça!
Non, mais la,
il sert à rien en dehors dans toute la série.
Ah oui, non, mais ça, on est d'accord.
Donc il va en prison pour rien, parce que ça, on va faire un truc en prison qui ne sert à rien. Ensuite, il revient, il ne sert à rien.
La série est beaucoup plus intéressante par les thèmes et les idées qu'elle veut développer que par ses personnages. Ça, c'est clair, parce que Andor, il a zéro charisme.
Mais c'est une catastrophe.
Et la série manque beaucoup de rythme. Mais effectivement, moi, ce que j'ai aimé dedans, c'est son approche complètement humaine. Enfin, on est vraiment à hauteur d'homme tout le temps. C'est vraiment une pure série d'espionnage et de résistance. Voilà, c'est son côté hyper réaliste par rapport à tout ce qu'on a vu de l'univers Star Wars. C'est la construction de la résistance et du coup, tout ce que ça implique. À la fois militairement, politiquement, et tout ça. Donc, moi, c'est ce côté-là, c'est vraiment sur les idées, les thématiques que la série m'a intéressé, plutôt que sur le reste, parce que oui, elle est beaucoup trop longue. Les personnages manquent souvent de charisme dedans. Mais voilà, sur le fond, en tout cas, elle est passionnante et elle nous rappelle que, les premiers Star Wars de George Lucas, déjà, les forces de l'Empire, ils étaient en uniforme presque nazi et compagnie. Donc, c'est pas nouveau, mine de rien, dans l'univers de Star Wars. C'est juste une expansion de ce qui existait déjà et c'est bien de l'explorer aussi.
Mais tu peux pas t'arrêter, tu peux pas juger. Enfin, là, je mets Andor et House of the Dragon sur le même plan parce que tu peux pas transposer. Des relations, des thématiques, on va dire bateau, dans un univers sans utiliser cet univers. C'est-à-dire que t'enlèves là le vernis Star Wars, t'enlèves le vernis Game of Thrones, il y a rien. C'est-à-dire que c'est les mêmes choses, c'est plat. Tu n'utilises pas ton univers et ses codes.
Je trouve que ça les rend beaucoup plus réalistes, au contraire. Ça nous permet de vraiment.
Ouais, mais là tu pars dans une sorte de. Un biais analytique qui finalement sur d'autres séries tu n'analyserais pas dans ce sens là et en fait pour trouver des qualités tu prends une analyse que tu n'aurais peut-être pas sur d'autres séries, donc c'est trouver des qualités qui n'en sont peut-être
mais
pas.
Mais la science-fiction et la fantasy sont faites pour parler de notre monde aussi, hein.
Donc ouais, mais en utilisant les codes que toi t'as créé dans ton univers, quoi. Enfin, je trouve que justement, ça n'apporte rien. Enfin, ils n'utilisent pas l'univers Star Wars comme il faut, ni les thématiques. Enfin, je trouve qu'il y a un mariage qui ne marche pas.
Je ne suis pas d'accord dans le sens où justement, on a eu une vision jusqu'à présent de cet univers qui était très papier glacé, très justement pulp avec les méchants, les gentils. On a vu un petit peu de politique dans la prélogie et les coulisses du Sénat, mais c'était très léger. Là, justement, je trouve qu'au contraire, ils prennent ce truc-là qu'on connaît de Star Wars, c'est-à-dire l'Empire, la manière dont l'Empire... parce que là, on est justement dans le moment où l'Empire commence à instaurer son régime totalitaire et tout ça. On utilise ce cadre-là et on vient creuser ce truc-là, ce truc que tous les fans et on va dire à peu près tout le monde qui a regardé Star Wars de près ou de loin connaît, puisque des Stormtroopers, on en a toujours vu, on en a tous vu, des gradés de l'Empire, on en a tous vu. Mais finalement, comment tout ça fonctionne, ça, on ne l'a jamais montré. Comment une planète vient... comment on vient sur une planète cadenasser entièrement la population, comment une planète réagit face à ça, comment justement peut-être des gens se réveillent, comment naît la rébellion. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Alors certes, ça emprunte des chemins qui ne sont pas tout à fait inédits qu'on aurait pu voir ailleurs, mais comme elle le fait quand même dans cet univers qui est Star Wars, il y a un peu quelque chose de neuf, on va dire, quand même, quoi.
Et le fait de le faire dans un univers Star Wars, ça nous permet aussi de ne pas avoir ce prisme de la réalité beaucoup trop tangible quand on voit des drames des pays du Moyen-Orient ou des trucs comme ça. C'est des choses qui sont quand même actuelles et c'est des films qu'on veut pas forcément regarder parce que c'est trop trop déprimant, et le faire dans le prisme de l'univers Star Wars, finalement, ça nous fait mieux comprendre aussi tous ces mécanismes d'instauration de terreur aussi, quoi.
Et puis ils ont vraiment creusé l'univers, juste pour finir là-dessus, ils ont quand même vraiment juste créé aussi des cultures à proprement parler, au moins sur trois planètes différentes. On voit la population locale avoir des rites qui leur sont propres et tout ça. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, ça nous montre un univers Star Wars qui est beaucoup plus pluriel que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, qui n'est pas à résumer que sur une planète de désert, une planète de forêt. Ouais. Voilà quoi. Il y a des gens qui vivent, ils sont leur.
Ça reste quand même très blanc, très humanoïde.
Oui, ça manque d'extraterrestres, oui.
Par contre, oui. Mais ça, c'est un problème des séries, oui, de manière générale.
C'est sûr. Mais pour le coup, c'est vraiment... la vision est vraiment très originale, entre guillemets, dans le côté Star Wars, dans le sens où on n'a jamais vu aussi bien, aussi poussé une représentation de... une représentation aussi réaliste qui fait résonner avec avec la guerre, avec avec l'esprit de résistance, le côté espionnage, le côté un peu thriller, même tout ça, cette manière de faire, on l'a jamais eu dans Star Wars. Et il y avait un filon, et c'est en ce sens-là qu'il y avait un filon à creuser après Rogue One, qui a été vachement apprécié. Moi, je trouve personnellement que c'est la meilleure chose qu'ait fait Disney depuis qu'il a racheté Star Wars, parce que ce film était réussi. Mais il y avait ça à creuser mais la différence entre Rogue One et Andor, d'ailleurs, c'est que dans Rogue One, t'avais le côté très la force, quoi. T'avais je suis un avec la force et la force est avec moi. Enfin, il y avait ce côté-là qui n'est pas du tout présent dans Andor. Et pour ça, la série vaut le coup. Après, c'est dans l'exécution où c'est pas forcément bien réussi, dans les longueurs, dans la réalisation, dans le jeu d'acteur, etc. Mais pour les idées qu'incarnent les personnages, le côté gris, en fait, où tout le monde est gris, il y a pas dans Star Wars, c'est vraiment le bien contre le mal. Enfin, George Lucas, c'est quand même pas foulé. C'est le bien contre le mal. C'est l'Empire contre le jeune premier. Enfin, Luke Skywalker contre l'Empereur. Vraiment. Et il y a ce côté très triptyque américain, conservateur, machin, Ronald Reagan et compagnie. Là, Andor, vraiment, tout le monde est gris. De Andor à l'Empire, enfin, jusqu'à en passant par Luthen, etc. Donc, c'était intéressant. Maintenant, sur 24 épisodes,
va falloir. Il y en aura peut-être plus, on ne sait pas.
Ouais, c'est bien ce qui m'inquiète.
Non, parce qu'ils ont dit qu'avec la saison 2, on arriverait à la fin de la saison 2, ça serait le début de Rogue One.
Donc, ouais, 24 épisodes, théoriquement. Ou peut-être moins dans la deuxième saison. Mais voilà, maintenant, tu vas faire les ponts. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire dans la deuxième saison? Tu vas refaire encore un truc avec une nouvelle intrigue d'espionnage, etc. Enfin, c'est bon, je pense qu'il a bien balayé sa planète, qu'il a fait déjà une première action rebelle, il est allé en prison, bon, très bien. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de plus, en fin de compte? Enfin, je pense que ça aurait dû se cantonner à une série comme ça en 12 épisodes.
Ils ont bien perdu 5 épisodes à le mettre en prison, ils peuvent le mettre ailleurs. Les autres personnages seront bien plus utiles, peut-être. Rapidement, Stéphane, sur Bad Batch, la série animée.
Oui. C'est sympathique à regarder, c'est pas le truc le plus passionnant qu'ils aient fait en termes de sujet. Parce que là, ça se concentre donc sur des clones, une unité spéciale, enfin bon, bref. C'est sympathique. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas. De toute façon. J'aime bien, il y a toute une mythologie qui est sous-jacente et qu'ils vont devoir explorer avec les clones, etc., avec la petite, là, voilà. Mais bon, pour l'instant, au bout de 10 épisodes, il n'y a rien qui a été fait, quoi. C'est toujours le problème, quoi. Ils prennent trop de temps, voilà.
Oui, The Bad Batch, c'est, pour l'instant, pour le coup, je trouve que ça reste de l'anecdotique, parce qu'il y a un truc à creuser qui est vraiment resté en surface de ces clones qui ont résisté à l'ordre 66, parce que c'est ça, et d'ailleurs c'était quelque chose qui est exploré dans un épisode de Clone Wars, et qui était un très bon épisode d'ailleurs à ce niveau-là. Et là ils vont un peu plus en profondeur sur ça, et en même temps, et pourtant ils restent en surface. Moi Omega elle m'agace, enfin le personnage d'Omega m'agace profondément, enfin c'est pareil, c'est une petite fille toute mignonne qui est là pour faire vendre des jouets et compagnie, et on découvre qu'elle a des skills absolument dingues au fusil, et ça sort de nulle part, enfin c'est un ajout qui est inutile. Vraiment, c'est un ajout qui est inutile. Grogu, c'était un ajout utile. Omega, c'est un ajout utile.
Et Star Wars Vision, une série de courts-métrages, Léo, rapidement, est-ce que ça vaut le coup de s'y atteindre?
C'est intéressant dans le côté rendre hommage à la culture japonaise qui infuse Star Wars quand même depuis le début. Et sur ça, c'est beau à voir. Après, c'est anecdotique. Voilà.
Guillaume, sur Tales of the Jedi, la dernière série animée.
Oui, on va rester sur l'adjectif d'anecdotique, je pense, puisqu'on est face à des tout petits épisodes issus de The Clone Wars, on va dire, ou à peu près dans cet univers. L'animation est assez similaire et on suit principalement le Comte Dooku et Ahsoka. Pas passionnant, ça comble des trous pour le fan pointilleux qui veut absolument tout savoir, mais il y a quelques ambiances intéressantes autour du Comte Dooku, mais voilà, pas mémorable. Un projet qui sort un peu de nulle part pour combler, on a l'impression un temps d'attente entre deux séries et d'animation, je sais pas, c'est un peu étrange. Filoni, je pense, qui s'est fait plaisir, ouais.
Et pour terminer, donc, parce qu'il va y en avoir aussi d'autres à venir, Fred, sur les projets à venir, lesquels t'intéressent entre Viacolite, Lando, Skeleton Crew?
Lando, pas du tout. non, ça va être Ahsoka et The Acolyte, en effet, puisque The Acolyte ouais. revient là plus beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le passé. Donc, ça peut, il peut y avoir des choses intéressantes à raconter sur l'univers de Star Wars. Donc là, ça peut être pas mal. Mais sinon, retrouver Ahsoka, ça sera un plaisir.
Et oui, est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres choses à raconter que ce qu'on connaît déjà? Enfin, je reviens à ma question d'avant, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas explorer vraiment un truc de super vierge, quoi, partir de zéro?
The Acolyte va vraiment, effectivement, normalement, emprunter la période là, que Lucasfilm met beaucoup en avant en littérature, qui est la Haute République. Donc 200 ans avant les films et tout ça, avec des choses qui sont très intéressantes d'un point de vue dogme sur les Jedi, etc. Donc ça peut être super cool de voir ça en série. Et Ahsoka, c'est enfin quelque part la suite de Rebels qu'on attend tous puisque on est un peu sur l'expectative concernant certains personnages, donc il y a quand même une grosse attente là-dessus. Pour le reste, Skeleton Crew va tenter le Stranger Things à la sauce Star Wars, a priori, avec un équipage de pré-ados chapeauté par Jude Law, mais à mon avis qu'on verra pas très très longtemps ni très souvent. Donc le problème de Star Wars, je trouve, c'est qu'on sent trop les projets industriels derrière ces séries. Donc j'espère qu'il y aura aussi des auteurs, quoi.
Bah, John Watts, on est mal barré. Hein.
Ah bah c'est très mal barré, hein. c'est foutu même. C'est même foutu parce que c'est. Je pense que je préférerais encore John Favreau, quoi, que John Watts. Parce
c'est
que...
clair.
Mais Ahsoka, je rebondis juste. L'intéressant, c'est que ça va. On va voir Ahsoka véritablement après l'épisode 6. Et ça, c'est une temporalité pour Ahsoka qu'on ne connaît absolument pas. Parce que c'est là le tour de force, c'est d'avoir créé un personnage aussi fort, aussi mythique, qui ne soit apparu nulle part dans les films et dont on ne sait pas le destin, en fait, après l'épisode 3, en fait. Donc ça, ça va être super chouette à voir, de voir une Ahsoka vieille, vraiment, et de voir ce qui est arrivé, comment elle a vécu, survécu, etc. Donc ça, ça va être super intéressant à voir.
Pour terminer, si vous aviez deux séries à recommander, Stéphane, de Star Wars, évidemment.
Oui, clairement Rebels et The Mandalorian.
D'accord. Fred?
Non, mais ça va être Clone Wars et Clone Wars.
Très bien. Voilà. Guillaume?
Moi, je dirais Rebels, parce que clairement, elle a fait tout avant toutes les autres en live action, donc et mieux. Et quand même Andor pour le contrepoint, justement, à cet univers Star Wars de Jedi et de clones et de. Voilà.
Et Léo?
Clone Wars, de toute façon, direct et sans hésitation. Et ensuite Rebels pour continuer un peu le truc, parce que vous allez adorer Clone Wars. Et donc, vous allez vouloir savoir ce qui se passe après. Le mieux, c'est encore de voir Rebels. Et j'ajouterais effectivement, c'est intéressant effectivement de voir Andor parce que c'est une série qui ne ressemble à aucune autre, c'est la moins Star Wars de toutes dans le côté univers, et ça offre un contrepoint qu'on verra rarement, voire jamais. Donc c'est intéressant de voir Andor, mais vraiment sinon c'est Clone Wars et Rebels. Ouais.
Donc évidemment tout ça est disponible sur Disney+, ou alors je me suis trompé, ouais, Disney a fait de la merde, et une des séries est dispo sur Netflix, on ne sait pas.
C'est bon.
Merci beaucoup. Guillaume, dis-nous, c'est l'instant pub, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur les réseaux de Spoilers l'émission, donc effectivement confrères de Sahel Causeur, parce qu'on traite de séries télé avec l'angle particulier qu'on le fait sur les séries exclusivement de science-fiction, fantasy et fantastique. Plein de choses, plein de thématiques, plein d'invités, en décembre, la calendrier de l'Avent, que vous pouvez retrouver toute l'année 2023 également, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou.
Parfait. Léo, où est-ce qu'on peut te retrouver? Si tu veux qu'on te retrouve.
Je ne suis qu'un fan de Star Wars parmi d'autres, et je suis présent sur les réseaux et essentiellement Twitter.
Fred, Stéphane, on sait où vous retrouver, donc ça ne sera pas de pub pour vous. Mais merci d'être venu quand même. Merci Guillaume, merci Léo, merci Fred, merci Stéphane. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt sur tout quoi.
Pas terminer avec que la force soit avec vous, bordel.
Et avec votre esprit.
Ah oui.